dans le mariage entre un non baptisé et un baptisé, celui qui est non baptisé doit en conscience prendre l'engagement de choisir l'idéal du mariage qui est de vieillir ensemble et d'accueillir la vie. Et cela peut être d'une très profonde conscience et d'une très profonde honnêteté. Ainsi donc, le mariage ne dure que quelques secondes. C'est l'échange des consentements. Et alors, la simulation, c'est de dire oui alors qu'on pense non, c'est d'exclure la fidélité parce que on se dit je m'en moque, s'il y a une fille qui me plaît, s'il y a un garçon qui me plaît, ben je ferai ça. Mais à ce moment-là, on ne peut pas le savoir. Votre consentement implique la nature du mariage. Et donc, à vous ensuite d'être cohérent et honnête jusqu'à votre mort. Et la mort vous sépare, parce que le mariage est une réalité temporelle et terrestre. Ce qui fait que même dans la foi, même dans l'Évangile, on peut se remarier si on est veuf ou veuve. Pourquoi ? Je vous l'ai déjà dit, mais c'est important. C'est l'engagement, est un engagement quand même dans le temps et dans le corps humain. Et ce qui fait que si le corps meurt, cet engagement cesse. Parce que c'est d'âme à âme, mais de corps à corps aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais si dans la vie après la mort, j'ai eu deux femmes, comment ça va se passer? Est-ce que je serai polygame dans la vie éternelle? Dans la vie éternelle, il n'y a pas d'amour temporel, il y a des amours personnels, comme un père et une mère aiment leurs enfants. Et même si sur Terre, vous avez parfois des parents qui préfèrent tel enfant ou tel enfant ou tel enfant, dans la vie éternelle, notre âme, notre esprit est tellement purifié en amour que nous aimons chaque personne comme elle est. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas ma première femme et ma deuxième femme, il y a Anne et Sophie. Oui. C'est deux personnes que j'ai aimées. Et pas de jalousie, et pas de comparaison. Oui. Comme on a deux sœurs, sauf que là, c'est pas le lien du sang, mais c'est le lien d'un amour donné et reçu. Donc c'est là que vous êtes marié. Après le mariage, donc qui dure l'échange des consentements, donc il a été préparé par de la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, par une homélie, et par votre échange des consentements. Là, il peut y avoir un chant d'action de grâce. On va bénir les anneaux. Bénir les anneaux. Auparavant, il n'y avait que la femme qui avait un anneau. Parce que la femme, elle porte les enfants. Et c'est un drame lorsqu'elle porte les enfants adultérins, pas, qu'ils ne soient pas du mariage. Donc on signale qu'elle est mariée par un anneau. La vie, c'est un peu matérialiste. Mais c'est aussi sans doute spirituel, c'est l'engagement de la femme. Vous allez dire, oh, ben, le machisme européen, il est bien là, l'homme n'avait pas d'anneau. Eh bien, il y a des pays où les hommes avaient des anneaux. Mais c'est plutôt, si vous voulez, un bijou de la femme, l'anneau. En ce qui concerne la bague de fiançailles, là, c'est le juriste civiliste qui parle, vous la rendez si vous rompez les fiançailles. Bon. Mais vous la gardez si vous mariez. Les anneaux sont bénis et vous voulez donner l'un à l'autre. L'homme à la femme ensuite à l'homme. Et le prêtre bénit les anneaux et bénit l'échange des anneaux. Alors il y a une petite phrase très jolie à faire. Dans la messe grégorienne, non, c'est plus mystique, plus sobre et tout ça, mais dans la messe en français, c'est plus développé. Voici... cet anneau, signe de mon amour et de ma fidélité. Alors, si vous êtes ému, voilà. pouvez les essayer, ça porte pas malheur. Voilà. Parce que, ah, pince, on l'a, le bijoutier l'a fait trop petit. Voilà. Hein? Très bien. Ensuite, vous avez la prière universelle. Prière pour les mariés. Ah, vous pouvez aussi avoir une prière des époux avant. Mais où vous la composez, où vous la choisissez. Oui.
On invoque l'Esprit Saint, il n'y a pas de partie.
On peut faire une prière à l'Esprit Saint juste avant l'échange des consentements. Voilà. Et ensuite, la messe se déroule, ou si c'est une bénédiction, il y a la bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale, qu'il y ait messe ou pas messe, vous avez à avoir le choix du texte. C'est la bénédiction 2 qui est la plus ancienne. Elle date au moins des Hébreux. Et je vous la conseille. Et il y a une évocation des femmes de l'Ancien Testament. C'est très joli. Et dites-vous qu'elle a 3000 ans. Oui. En tout cas, d'autres bénédictions nuptiales ont été rédigées dans les années 70. Donc vous pouvez choisir. Ensuite, après la bénédiction nuptiale, vous avez, quand il n'y a pas de messe, la fin du mariage lui-même. S'il y a une messe, il y a tout le déroulement de la prière eucharistique. Et dans la messe grégorienne, c'est avant le Notre Père qu'il y a la bénédiction nuptiale, la grande bénédiction nuptiale. Ensuite, la communion. Si vous souhaitez la messe pour votre mariage, pour communier, il faut vous être confessé depuis au moins moins d'un an pour faire une bonne communion. Vous voyez ? Et donc, on vous invite à vous confesser avant votre mariage. Alors parfois, quand vous avez des gens qui sont... ils croient en Jésus, mais bon, leur pratique religieuse n'est pas très intense. Quand ils arrivent à 50, 55 ans et qu'ils peuvent avoir un moment de plus grande ferveur et qu'ils veulent se confesser, on entend depuis combien de temps vous êtes confessé? Depuis mon mariage. Voyez. Mais au moins, confessez-vous pour votre mariage. Voyez. On est un vieux prêtre. Ou quelqu'un que vous connaissez qui vous semble sympathique, si vous avez peur des cols romains, un col roulé ou un polo, mais si vous voulez, au moins confessez-vous avant votre mariage. Vous voyez ? Pourquoi ? Mais c'est un acte d'humilité, c'est un acte. Et ça peut être aussi quelque chose qui vous purifie, qui vous motive aussi. Et qui vous permet aussi de j'ai retrouvé votre dossier qui vous permet de faire un point dans votre vie. Ça peut être vraiment important pour vous. Et n'hésitez pas. Alors vous avez des prêtres un peu psychologistes, vous avez des prêtres qui vont vous faire asseoir devant vous, ou des prêtres qui vont vous mettre à genoux. Quelle que soit la manière dont vous allez vous confier à un prêtre, par pitié, confessez-vous. Et donc, par contre, si vous ne voulez pas vous confesser, il va y avoir un petit problème, c'est pour la communion. Il faut être cohérent. Vous voyez ? Parce que communier, c'est recevoir Jésus lui-même. Et Jésus, c'est pas un juge. Il a donné sa vie pour vous, hein, donc il vous jugera après votre mort. Parce que tant que vous êtes vivant, il vous pardonnera, sans arrêt. Mais à une condition toute naturelle et toute surnaturelle, c'est que vous soyez humble. Que vous sachiez reconnaître vos torts. Quand dans une. Si ça vous est arrivé un jour d'être injuste, et que vous avez eu l'occasion de demander pardon, je peux vous assurer, je suis sûr que vous vous en souvenez quelque peu. À une grande occasion, vous avez été. Vous avez péché contre quelqu'un, vous avez été méchant contre quelqu'un, injuste contre quelqu'un. si vous avez pu vous réconcilier en reconnaissant votre tort, eh bien, il y a quelque chose de vraiment profond, de vrai. Et donc, Jésus, lui, dans la relation avec lui, l'amour inconditionnel ou le pardon inconditionnel de Dieu, il fait attention à une religion un peu pauvre. Il faut des actes, un peu, quand même. Il faut un peu, dans votre vie, véritablement reconnaître vos torts. Et ainsi, voyez-vous, avoir une vraie relation franche et sincère avec la divinité. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, la pratique religieuse nous pousse à nous poser la question de Dieu. Vous avez des pays comme le Liban, par exemple, où il n'y a pas de laïcité. Et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est étonnant, quoi. C'est pas... ceux qui se prennent un peu de distance par rapport à la pratique religieuse sont au moins agnostiques. Mais c'est une telle atmosphère, si vous voulez, de reconnaissance de la création, de la vie humaine, de la présence du surnaturel, que pour vous, c'est une invitation, voyez-vous, à aller vers Dieu. Et la communion est quand même pour ceux qui vont au-delà simplement de la religion naturelle, de l'existence d'un créateur, même bon et bienveillant, mais qui est entré en relation avec nous et s'est fait homme. Petit bébé de Marie a grandi et au moment de donner sa vie, a pris du pain et du vin et a dit « ça sera pour jusqu'à la fin des temps ma présence ». Vous voyez, une présence assez pacifique, hein, un morceau de pain, mais sur lequel le prêtre va dire les paroles de la consécration, il va dire « au nom de Jésus, ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang. » Ce qui fait que dans un mariage, ne communiez pas par convenance. Soyez vraiment vrai. Et vous ne choquerez pas le prêtre célébrant à lui dire, vous savez, dans notre chemin spirituel, pour l'instant, je ne me sens pas communié parce que ma foi en la présence de Jésus dans la messe n'est pas encore... Enfin, c'est un peu ancien pour moi, j'étais enfant, tout ça. Si vous voyez que votre communion sera sociale et pas personnelle, alors il faut avoir la simplicité de ne pas communier. Même si le prêtre célébrant vous dit « Mais si, allez communier, vous croyez en Jésus, Il faut vraiment que ça soit pour vous un ressourcement. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu lié à la pratique religieuse. Si vous n'êtes pas du tout pratiquant, eh bien, il faut à ce moment-là mieux respecter la communion et attendre. Mais d'un autre côté, il peut y avoir vous pouvez être touché par une certaine ferveur au moment de votre mariage et finalement dire à un prêtre en confession j'aimerais communier, j'ai quand même le souvenir, j'ai quand même la foi dans la communion, j'aimerais le jour de mon mariage communier, je ferai mon possible pour aller à la messe dans le futur. Vous voyez, j'ai parfois, tout intégriste que je suis, une paroisse, la messe en latin et tout ça, hein, même si c'est Paris, tout, c'est un peu quand même... Et donc, un couple pas très pratiquant, je les ai confessés le matin du mariage, en leur disant ce que je vous ai dit. Et ils ont accepté. Ils souhaitaient communier l'un et l'autre, et j'aurais dit, mais je vous donne l'absolution si vous dites je ferai mon possible pour aller à la messe. Boum. Et donc je suis beaucoup plus laxiste qu'on pense, hein, mais si vous voulez, je vous dis tout ça pour que Votre messe de mariage, si vous choisissez que la messe soit célébrée, soit la plus vraie, sincère possible. Après la messe, il y a une autre petite bénédiction, on vous donne le choix aussi. Hein. Ça, pour le coup, la vieille bénédiction de fin de messe, c'est la bénédiction juive, et même dans la messe grégorienne, hein, qui fait trois lignes. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous donne de voir vos enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. C'est très juif. Mais c'est en même temps très naturel et très... Voilà. Jusqu'à la troisième et quatrième génération. C'est vraiment très, très biblique. Ouais. Bon. Et ensuite, eh ben, vous signez les registres. Le prêtre vous fait signer les registres. Alors, en ce qui concerne ceux qui vont se marier civilement le matin même ou une heure avant, vous prenez au moins l'acte de mariage qu'on vous donne. Du coup, l'acte de mariage intégral, il n'en est pas question pour le jour même. Par contre, si vous êtes marié civilement au moins vraiment bien avant, essayez d'avoir l'acte de mariage intégral à mettre dans le dossier que vous donnez au prêtre célébrant. Il y a des prêtres célébrants qui sont très 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 administratifs et qui vont dire moi je ne célèbre pas si je n'ai pas l'acte de mariage. On est passé à la mairie, on en vient, il y a 40 personnes qui peuvent témoigner, donc moi je veux l'acte, sinon je ne célèbre pas. Et ils s'enferment dans la sacristie. Alors là, vous défoncez la porte, vous giflez, ou machin, c'est pas possible. Donc, n'oubliez pas l'acte de mariage que vous donne la mairie. Hein, vous lui donnez. Comme ça, il est rassuré, il n'ira pas en prison. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit qu'en France, et comme dans d'autres pays, il y a d'autres pays qui inscrivent dans l'état civil le mariage religieux. Mais en France, il y a un mariage civil qui, en droit pénal, est obligatoire avant un mariage religieux. Vous voyez ? Donc les prêtres ont cette vieille peur pour certains de dire le procureur de la République va venir me voir, bien vous avez fait un mariage sans avoir de mariage civil auparavant. Et je vous ai dit que en banlieue, les procureurs de la République ne vont pas très souvent dans les mosquées où il y a des mariages religieux sans mariage civil. Ils n'y vérifient pas trop. Mais pour l'Église catholique, ils ne vérifient plus non plus. C'est, si vous voulez... Mais bon, on joue le jeu, parce que comme je vous l'ai dit au début, n'oubliez pas que le mariage civil est respectable, il est le fait social, il vous assure la filiation légale et la succession légale, les testaments légaux. Vous voyez ? Si on a inventé le pacte, c'est parce que entre concubins, il n'y a pas de droit successoral. Donc on est embêté par rapport au loyer, par rapport à ceci et cela. Donc on a inventé le PACS, qui est une fiscalisation du concubinage. Par contre, le mariage, lui, est de droit, vous permet de succéder de droit. Alors je ne sais pas si on l'avait vu pour l'argent, si vous avez un régime matrimonial que vous avez choisi, c'est important, c'est pas négligeable. Le régime commun dans un mariage civil français, c'est la communauté des biens à partir du mariage. Tous les biens que vous avez eus avant vous appartiennent en propre, et tous les biens que vous allez acquérir après mariage sont à 50-50, sauf à le préciser. Par exemple, vous achetez un studio après votre mariage, et vous voulez que ça soit à votre nom. À ce moment-là, vous devez le payer vous-même. Avec vos propres, et en signalant dans le contrat et dans les paiements mensuels, ou dans la, si vous payez rubis sur l'ongle, pourquoi pas, que ça soit votre argent. Parce que dans le régime français, c'est commun. Tout est à 50-50. Et vos salaires également. Donc l'un gagne 2000, l'autre gagne 3000, vous êtes à 2500, chacun. Ah ben non, il y a du 500, c'est pour moi. Non, non, vous êtes mariés, c'est du 50-50. Ensuite, vous pouvez avoir la séparation des biens. Ce qui est utile pour ceux qui ont une profession libérale et qui ont des responsabilités. sur leurs biens par rapport à leur activité professionnelle. Donc ne négligez pas cela, mais je suis sûr que lorsque vous avez une profession libérale, que vous êtes commerçant, vous le savez. Hein, à ce moment-là, il vous est bien conseillé la séparation des biens par rapport à des faillites commerciales, voyez, pour que votre conjoint ne soit pas responsable et qu'on ne puisse pas lui réclamer vos dettes. Ensuite, vous pouvez faire des contrats de mariage devant notaire, plus spécifique encore que la séparation des biens, si vous avez des souhaits particuliers. En ce qui concerne les champs, j'espère que vous avez tous prévu des champs. Une petite chorale, un instrument de musique, ça peut être l'orgue, mais vérifiez bien que dans les églises, il y a un orgue qui fonctionne, voyez. Donc, ces choses-là, vous devez bien les vérifier. En ce qui concerne le choix des textes, je vais utiliser vos mails pour vous envoyer les PDF de tous les tests. Donc même ceux, je vais pas, si vous voulez, si vous avez la messe grégorienne, vous aurez le texte et aussi des exemples de chants. Alors c'est un livret un peu large. En ce qui concerne les chants profanes, normalement non. Même si vous avez des chansons de Jacques Brel très belles, ou d'Obispo, non, vous verrez avec le prêtre Sénémran. Ça c'est mon côté intégriste, hein. Obispo passera pas, voyez, même si c'est une des chansons du spectacle Jésus. Vous n'avez pas vu le spectacle Jésus d'Obispo? C'était pas mal. Enfin voilà. C'est pas Obispo d'ailleurs, si c'est Obispo. Et donc voilà. Alors maintenant je vais aller faire une photocopie. Je vais vous laisser un peu souffler. Et pour la déclaration d'intention pour le mariage de deux catholiques, il y a une particularité quand l'un des deux n'est pas baptisé, c'est on l'oblige pas à se référer à Dieu. S'il est agnostique, donc lui par contre devra s'engager quand même sur ce que vous voyez en gras. Moi, alors vous devez l'écrire, hein, c'est pas sauf pour des personnes qui ont des problèmes d'écriture ou des problèmes de langue. Normalement, c'est une proposition de rédaction. Hein. Moi, en vue prénom et nom. C'est le formulaire. Donc là, vous pouvez mettre que votre prénom. On sait quel est votre nom. En vue de mon mariage avec, au jour de mon mariage, en m'engageant devant tous, je veux en pleine liberté et en présence de Dieu. Donc ça, si vous n'êtes pas croyant ou si vous êtes agnostique, vous voyez ce que vous dites. Parce qu'il y a des personnes non baptisées qui croient en Dieu aussi. Hein. Donc, vous adaptez. Ici, c'est la déclaration de deux catholiques, donc eux doivent, en tant que catholiques, au moment de leur mariage, dire leur foi. Alors, vous avez parfois des personnes qui ont été baptisées catholiques, mais qui ont des doutes sur la foi. Alors, il faut qu'ils l'expriment. Parce qu'en fait, ce qu'on leur demande, c'est la sincérité en ce qui concerne la loi naturelle de l'amour matrimonial. Donc, ce qui est en gras, c'est la pleine liberté. Je veux, c'est pas je souhaite. Et en présence de Dieu, créer une véritable communauté de vie et d'amour, c'est une belle expression que vous pourrez quand même reprendre, telle que l'entend l'Église catholique dans sa fidélité au Christ, ça, c'est suivant votre foi. Je veux, par cet engagement réciproque, vous dites, j'ai constaté que elle aussi ou lui aussi le veut. Hein? Et donc vous le dites, moi c'est ce que j'ai constaté. Hein? Établir entre nous un lien sacré, ça par contre, même non croyant, le mot sacré est au sens large, et que rien durant notre vie ne pourra détruire, indissolubilité. Ça c'est une réalité naturelle, donc même quelqu'un de non croyant, non baptisé, doit le dire, voyez-vous. Je m'engage à tout faire pour que notre amour grandisse dans une fidélité totale. Donc je vous ai dit, hein, si parfois vous êtes infidèle, c'est une chute, c'est une faute, et ça ne détruit pas le mariage. Il y a le pardon, ou il y a parfois, si c'est vraiment répétitif et insupportable, la séparation de corps. Mais si vous voulez, c'est une faiblesse qui se révèle tardivement dans votre mariage, c'est une épreuve. Mais si c'est très tôt dans le mariage, c'est qu'en fait vous n'avez pas pris l'engagement d'être fidèle. Donc là, ça sera la nullité de mariage. Mais pour qu'on engage une nullité d'un mariage, il faut des événements très graves. Alors, déjà, oh, j'ai mal choisi, bon, je suis encore dans les temps, ça fait seulement 2 ans de mariage, allez, ça va pas du tout, et tout ça. Voilà, vous êtes des personnes conscientes. Hein, donc, mais c'est vrai qu'on ne vous encourage pas au pardon dans le monde actuel, hein, c'est sûr. Une fidélité totale pour être, pour mon époux, un véritable soutien. Ça, c'est la loi naturelle, hein, le mot soutien. Il n'est pas en gras, hein, mais... Enfin, moi, mes parents ont 60 ans de mariage, vous me direz... Hein, eh bien, mon père a 86 ans, et ma mère s'occupe de lui. Il est en lit médicalisé à la maison, il la reconnaît, il nous reconnaît, mais bon, Et donc, c'est impressionnant de voir ça. Alors j'ai mis des infirmiers, un infirmier, une infirmière, chaque jour deux fois, un kiné, tout ça. Mais bon, ma mère, c'est impressionnante. C'est vraiment le mariage. J'avais comme ça un jour été dans un appartement. Le mari était là, la femme était là. Il était en lit médicalisé. Mais il avait 65 ans, hein, un cancer, et les soins palliatifs étaient à la maison, elle était auprès de lui, enfin voilà, c'est le mariage. J'accepte les enfants qui pourront naître de notre union. Donc ça, soyez sincères, hein, c'est une condition sine qua non, c'est des enfants pour le futur. Vous avez des personnes qui se marient qui ont déjà des enfants. C'est-à-dire, on a déjà 2 enfants, donc, mais on se marie, mais on n'en aura pas 3, un troisième. Alors, pourquoi ils prennent un engagement matrimonial, qu'ils restent dans leur liberté, qu'ils restent en concubinage? Vous voyez, c'est le mariage, c'est l'amour corporel et qui peut être fécond. Donc, si vous ne prenez pas cet engagement, c'est pas un vrai mariage. Et bon, de nos jours, avec la contraception, la pensée contraceptive très très prégnante, mais alors, voyez-vous, il faut être vrai, quoi. Vous voyez, dans la foi chrétienne, dans le mariage chrétien, on vous demande d'accepter les enfants futurs. Alors, vous pourrez pécher, vous pourrez avoir peur d'avoir... 2 autres enfants, 3 enfants, 4 enfants, c'est pas possible, on peut pas payer, on peut pas avoir le train de vie qu'on a d'habitude. Mais si vous voulez, c'est à vous d'être honnête. Vous savez, je me marie, je souhaite des enfants. Ensuite, si au bout de 2-3 enfants, vous dites on arrête là, c'est un manque de confiance, c'est un manque de développement aussi. Parce que je ne vais pas vous faire du chantage, hein, c'est souvent le dernier qui s'occupera de vous. Hein, donc faites attention, avec le temps, on verra, dans cette société actuelle. Et puis on n'a pas forcément de nombreux enfants, alors qu'on ne s'empêche pas d'en avoir. Hein, voilà. Et bon, vous avez déjà entendu de ma bouche cette foi évangélique, cette foi religieuse. J'accepte les enfants qui pourront naître de notre union, nous les éduquerons humainement et chrétiennement, c'est-à-dire vous engager au catéchisme, hein, baptême et catéchisme, hein, avec le meilleur de nous-mêmes. Je crois que notre amour nous appelle à dépasser notre égoïsme en nous mettant au service des autres dans notre foyer et dans la société, en, travaillant avec tous pour plus d'amour, de justice et de paix. Ça, c'est votre engagement éventuel dans des œuvres, dans des associations. J'ai confiance que Dieu bénira ce projet de vie et qu'aidé par lui, nous pourrons le réaliser. Voilà. Alors, si... pour la part, s'il y a un mariage où l'autre n'est pas baptisé ou protestant ou orthodoxe, on précisera, je prends l'engagement de faire tout mon possible pour que mes enfants soient baptisés et éduqués. Là, on devra c'est pas seulement éduquons chrétiennement, il faudra formuler nettement qu'on souhaite privilégier le baptême et le catéchisme pour l'enfant. Voilà. Très bien. Alors...